Bonjour chers auditeurs, voici notre magazine. Nous vous annonçons que nous fêtons le cinquantenaire du temple de Bayeux qui va donner lieu à une journée de célébration. Alors peut-être certains de nos auditeurs pensent-ils que le protestantisme s'est instauré à Bayeux il y a 50 ans. Or en fait, il a une histoire ancienne. Jean, peut-être pouvez-vous nous donner quelques jalons de cette histoire ancienne.
Oui, à grands traits. Le protestantisme dans le Bessin remonte au XVIe siècle. Dans les années 1540, il y a eu beaucoup de prédicateurs qui sont venus prêcher la réforme, la réforme du christianisme, la Bible, etc., dans une région qui était autour de l'évêché de Bayeux. Et donc, pendant plusieurs années, pendant au moins 20 ans, il y a eu beaucoup de prédicateurs et la réforme s'est répandue, notamment dans la noblesse locale. Par exemple, il y avait François de Bricqueville, seigneur de Colombières, qui est dans le Bessin, avec un château qu'on peut encore visiter. Et puis, il y a eu bien d'autres, on ne pourrait pas entrer dans les détails, beaucoup d'aristocrates locaux, de petits nobles, qui se sont convertis et qui ont entraîné les fidèles autour d'eux. Et puis vient la période assez brutale des guerres de religion, qui a duré quand même plus d'une vingtaine d'années. Et là aussi, il y a eu pas mal de violences, notamment à Bayeux, et des pillages et des violences, comme toutes les guerres, quasiment des guerres civiles. Et puis il y a eu, Dieu merci, l'édit de Nantes en 1598 avec Henri IV, et là, les affaires se sont stabilisées. Il y avait beaucoup de temples dans le Bessin. Il y en avait à Vaucelles, dans la banlieue de Bayeux. Il y en avait à Colombières, dans tout le Bessin. Et le protestantisme a connu à ce moment-là une période de répit. En 1623, une célébrité du protestantisme est née à Bayeux. C'était Pierre Dubosc, qui était un grand prédicateur. Et Bell, le philosophe, disait que Pierre Dubosc était le plus grand prédicateur de son temps. Et puis, progressivement, la vie des protestants dans le Bessin est devenue un peu plus difficile parce que, progressivement, d'ailleurs, dans toute la France, c'était la même chose, il y a eu des restrictions progressives de la liberté de culte. Et il y a eu un évêque, Monseigneur de Nesmont, qui était un grand évêque, qui a créé le séminaire de Bayeux, qui a créé l'hôpital, et puis aussi qui a été un des initiateurs de la répression des protestants. Et progressivement, bien avant la révocation de l'édit de Nantes en 1685, on a commencé à détruire beaucoup de temples dans le Bessin, et la vie des protestants n'est pas devenue très facile. 1685, là, c'est la révocation de l'édit de Nantes, l'interdiction d'exercer le culte protestant, et également, sauf pour les pasteurs, l'interdiction de quitter le royaume. Alors il faut savoir qu'il y a eu quand même des clandestins qui partaient de Sainte-Honorine-des-Pertes, sur le littoral du Bessin, et qui partaient en Angleterre ou dans les pays du Nord, ou la Hollande en particulier. Donc là, un point de départ absolument interdit et qui était réprimé vers les pays extérieurs. Et puis il y a eu quand même, Dieu merci, ce qu'on appelait les opiniâtres, des gens qui sont restés, qui ont fait semblant de se convertir, qui ont gardé un culte familial quasiment secret, qui a permis comme ça de maintenir un peu de protestantisme dans le Bessin. Néanmoins, au XVIIIe siècle, sous Louis XVI, quand on a fait une enquête sur le nombre de protestants, il ne restait plus vers 1780, dans les années 1780, il n'y avait plus qu'un protestant dans la ville de Bayeux, ce qui n'est pas beaucoup. Alors donc, un protestantisme qui avait un petit peu disparu. Au XIXe siècle, il n'y a pratiquement plus de protestants à Bayeux et dans le Bessin. Il faut quand même signaler qu'il y avait des personnages importants qui étaient protestants, notamment les créateurs des porcelaines de Bayeux, la fameuse...
Joachim Langlois.
Voilà, Joachim Langlois, hein, qui appartenait à une famille de pasteurs et qui a fabriqué pendant des décennies, les magnifiques porcelaines que l'on peut admirer d'ailleurs encore au musée, au magnifique musée de la ville de Bayeux. Et puis, il faut signaler au XXe siècle, un protestant un peu oublié, mais c'était François Coulet, qui en juin 1944 est nommé commissaire de la République pour la Normandie en résidence à Bayeux, et c'est lui qui va accueillir De Gaulle le 14 juin 1944. Ça, c'est anecdotique, mais c'est un protestant qui a eu un moment d'une autorité rétablie de la République française. Alors, ça, c'est la grande période ancienne, mais maintenant, ce qui est important, ce qui va être commémoré prochainement, c'est les 50 ans du temple. Et donc, là, pourquoi un temple? Il y a eu un temple parce qu'il y a eu une communauté qui s'est reconstituée. Et Hélénette Goulon, vous qui avez vécu cette période de la reconstitution d'une communauté, vous pourriez peut-être nous en parler et nous dire un peu comment s'est reconstituée à Bayeux une communauté protestante qui va être dotée d'un temple dans les années 50-60.
Oui. Eh bien, c'est vrai que c'est d'abord, au fond, grâce à l'initiative d'un couple, monsieur et madame Richard, qui étaient attachés, disons, au protestantisme, et qui ont ouvert leur maison à un certain nombre de personnes dans le bouleversement, si vous voulez, de l'après-guerre. Il y avait en effet eu des bombardements extrêmement difficiles à Caen, et un certain nombre de protestants s'étaient réfugiés dans le Bessin. Et d'autre part, il y a eu aussi à cette période un certain nombre de Hollandais, néerlandais, qui venaient s'installer dans la région et qui, notamment pour cultiver les terres dans des fermes qu'ils louaient. Cela a fait donc un apport de population et ça a d'abord été des cultes que nous pourrions intituler cultes de maison.
À domicile. Chez Richard en particulier.
Voilà, au 27 rue Saint-Laurent. Et ensuite, alors, comme disons que la communauté s'étoffait, monsieur Richard, aidé d'ailleurs du pasteur Marshall, qui avait lui-même été prisonnier de guerre et qui avait pris en charge la communauté à partir de 1946 pour assurer les cultes et faire aussi la catéchèse, ont demandé à la mairie s'il était possible qu'on leur laisse la possibilité d'avoir un local plus vaste pour célébrer le culte. Et personnellement, j'ai assisté, quand je suis arrivée à Bayeux, j'ai assisté à des cultes qui se déroulaient dans la salle des gardes.
Alors, le pasteur Marshall, rappelons-le, la communauté de Bayeux, à l'époque, dépendait strictement de Caen.
Elle dépend toujours, d'ailleurs, de Caen.
Pour le pasteur, mais elle n'était pas encore association culturelle.
Elle n'était pas encore association culturelle.
Et le pasteur
culturelle.
Marshall voilà. Est le pasteur qui desservait Caen dans Bayeux. L'après-guerre.
Voilà.
Et donc, et Bayeux, Bayeux en même temps.
Bayeux en même temps. Et alors, nous étions dans cette salle avec des chaises de jardin qu'on dépliait et puis une petite table très modeste. C'était tout à fait rustique. Pour les fêtes de Noël, il nous est arrivé, eh bien, la mairie nous avait cédé la salle des cuisines pour le jour de la fête. Une autre fois, c'est la paroisse catholique qui nous avait prêté sa salle paroissiale. Donc,
vous avez la collaboration à la fois des autorités civiles, voilà, de la mairie et de l'Église catholique pour, voilà, pour apporter le concours matériel.
Si bien que au bout d'un certain temps, les demandes ayant été faites en bonne et due forme, les services de la mairie, en particulier le docteur Jeanne et le conseil municipal de l'époque, ont donc trouvé qu'on pourrait donner la salle que nous occupons toujours et qui est l'ancien tribunal de commerce. À cette époque, l'ancien tribunal de commerce ne fonctionnait déjà plus et les salles avaient été prises comme salles d'école par l'école Jeanne d'Arc. Et nous avons encore une lettre où le maire de l'époque dit que dès que l'école n'utilisera plus ces salles, eh bien elles seront à notre disposition. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, au bout d'un certain temps, nous avons en quelque sorte occupé les locaux, bien sûr, pour les cultes et les grandes fêtes religieuses qui nous sont communes, à savoir Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, etc. Et puis, il a fallu aussi l'aménager de façon cultuelle. Nous avons utilisé du mobilier d'un ancien temple de la région de Caen.
Beuville qui venait, voilà, de fermer.
Voilà. Et enfin, on a eu ce qu'on peut appeler une vraie salle de culte. Et le 15 décembre 1963 a eu lieu donc la dédicace du temple qui était présidée à l'époque par le pasteur Jean-Paul Benoît du Conseil national de l'Église réformée, avec le pasteur Marquet qui avait succédé au pasteur Marchal, et naturellement la famille Richard, et avec le maire de l'époque, dont nous avons encore les photos dans les journaux, c'est-à-dire le docteur Henri Jeanne. Voilà. Alors la communauté, en 1975, s'est constituée en association cultuelle. Et le nombre de ses membres, bien sûr, a varié au cours des 50 ans. Parce que nous avons une époque où nous avions beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents, nous étions très nombreux au culte, et puis, eh bien, cette génération est allée vivre ailleurs. Il faut, je crois aussi, se rendre compte que la communauté vit dans son temps, et comme beaucoup d'autres communautés, elle a vu souvent les jeunes s'en aller vers des plus grandes villes, des métropoles, etc. Et par conséquent, le nombre en a diminué. D'autre part, Bayeux a vu aussi, malheureusement, on a assez entendu parler de Moulinex, c'est un certain nombre d'industries qui existaient disparaître, et évidemment, cela ne favorise pas l'apport de jeunes populations dans notre région. Donc, les activités sont quand même restées importantes, parce que la communauté a voulu marquer un certain nombre de points. Par exemple, nous avons eu d'abord une exposition sur la Bible qui a été très, très suivie. Ensuite, nous avons eu une exposition sur la vie des protestants et notamment un certain Dumont de Bostaquet. Et cette exposition s'intitulait « Au milieu de nous, les protestants ». Il y avait une partie historique sur
le Dumont du Bostaquet
qui s'était exilé.
Au moment après la révocation.
Au moment de la révocation. Et puis, il y avait toute une partie actuelle où on montrait comment se déroulait un culte, quelles étaient les œuvres que l'Église protestante avait suscitées. Donc, c'était la partie, disons, plus actuelle. Et puis ensuite, alors, on a fait une troisième exposition au moment du 400e anniversaire de l'Édit de Nantes. Et ça, c'était à l'époque où nous avions le pasteur Baume. Et l'exposition s'est déroulée, d'ailleurs, dans l'ancien séminaire dont la cour est ouverte vers la tapisserie actuellement de Bayeux. Et elle a été inaugurée par le pasteur François Claveroli, qui était président de région à l'époque, et avec le pasteur Baume de Caen. Et elle était sous l'égide aussi de la Société historique du protestantisme en Normandie. Et notamment, elle a donné lieu non seulement à cette exposition, cette commémoration de l'Édit de Nantes, mais elle a donné lieu aussi à une conférence qui a été très suivie par le professeur Pierre Chaunu de l'Institut, qui a montré comment, en quelque sorte, Henri IV avait établi une sorte de compromis pour établir la paix dans le royaume. Et il a montré aussi que cet Édit de Nantes avait été en quelque sorte une base de la tolérance et aussi de la notion plus tard de laïcité qui s'est répandue dans notre monde contemporain. Alors, la vie locale et consistoriale est très importante en ce sens que la vie locale, vous avez, par exemple, une petite communauté ne peut vivre sans l'apport des autres communautés. Donc, vous avez des réunions de secteur, on se réunit parfois avec la communauté de Courseul, parfois avec la communauté de Caen. On a aussi ce qu'on appelle les réunions consistoriales. Le consistoire, c'est un organisme qui n'a pas disons, d'autorité particulière, mais qui est celui qui réunit les paroisses du consistoire de Basse-Normandie, c'est-à-dire les départements de la Manche, de l'Orne et du Calvados, et qui permet aux pasteurs et aux laïcs de s'entraider. Il y a une véritable solidarité. Et cette solidarité se manifeste à la fois sur le plan financier, par exemple pour l'aide pour les automobiles, pour les déplacements des pasteurs. Elle se manifeste aussi par le partage des tâches. Un pasteur, par exemple, s'occupera du journal consistorial, un autre s'occupera davantage de la jeunesse et réunira des jeunes pour des camps, par exemple l'été. Ou bien, ça peut être aussi le déplacement des prédicateurs laïcs, parce que les pasteurs ne peuvent pas tout assurés et font donc appel, et ça fait partie aussi de la tradition du protestantisme avec la notion très importante du sacerdoce universel. C'est pourquoi les laïcs sont amenés à aller d'une paroisse à l'autre, d'une communauté à l'autre, à l'intérieur du consistoire. Et si, par exemple, un pasteur a un problème de santé, qu'il ne peut assurer le culte, on fait appel aux prédicateurs laïcs qui parfois se déplacent de très loin pour assurer un culte. Donc cette solidarité est très importante et fait partie, je dirais, intégrante de la vie des communautés locales. Et puis nous avons alors des réunions, par exemple, nous avons eu 2 années de suite au château de Vaux-sur-Aure. Monsieur David Bellugou avait gentiment ouvert ses portes et son parc. Une réunion où nous avons fait participer d'ailleurs avec beaucoup de joie la chorale du Temple de Caen. Et ça, ce sont des réunions un peu festives, mais qui sont vraiment importantes pour maintenir les liens et aussi garder ce sens très vivant de la communauté qui partage ses joies et aussi ses peines. Voilà.
RCF.
Oui, Hélénette, nous évoquions la longue histoire de la communauté de Bayeux, il y a très longtemps, il y a plusieurs siècles. La période plus récente est la vie de cette communauté, communauté renaissante dans les années 1950-60. Or, le 1er décembre va être célébré le 50e anniversaire de la dédicace du temple de Bayeux. 1963-2013. Alors, en quelques mots, dédicace, c'est un mot un petit peu abstrait. On pense à dédicace des livres. Dédicace d'un temple, c'est en quelque sorte l'inauguration, si on peut dire.
Oui. C'est au fond dire, voilà, cette salle est liée maintenant au service du culte.
Et dédiée au service du culte. Et donc, c'est cet événement très marquant pour une communauté qui s'est vue attribuer par la ville de Bayeux d'un lieu de culte définitif. Et donc c'est cet événement qui va être célébré avec plusieurs manifestations. Alors je crois qu'il y a d'abord, évidemment, le dimanche 1er décembre, à 10h30, un culte qui va être présidé par Olivier Filliol. Olivier Filliol qui est pasteur et qui est le président de la région Nord-Normandie, autrement dit un grand secteur des protestants. Dans le système protestant, il y a le conseil presbytéral, il y a le consistoire, on en a parlé un peu, il y a les synodes régionaux, il y a un conseil régional et il y a un président, le tout étant élu d'ailleurs par les représentants des paroisses d'une manière directe ou indirecte. Donc le président Filliol va venir à Bayeux et c'est lui qui va célébrer le culte de cette commémoration du 1er décembre.
Oui, il est originaire, je crois, du Midi.
Alors oui, oui, Olivier Filliol, et d'ailleurs on l'entend quand on l'entend, il a un petit accent encore, il vient de Saint-Jean-du-Gard, il est natif de Saint-Jean-du-Gard, là, en vrai pays cévenol, dans un vieux fief protestant. Il a fait ses études de théologie à la faculté d'Aix-en-Provence, et puis il a pris un poste de pasteur en Picardie, dans un petit village, je crois que c'était Landouzy par Fondane, si mes souvenirs sont exacts. Donc à des centaines de kilomètres du sud, il est parti dans le nord, et il s'est très bien acclimaté, et les paroissiens l'ont très bien reçu, et il est resté dans cette région. Puis il a été pasteur d'Amiens, dans la Somme, et puis, depuis quelques années, il a été élu président de la région Nord-Normandie, qui est une grande région qui commence à Avranches, au Mont-Saint-Michel, qui va jusqu'à Lille et qui maintenant va intégrer dans quelques... En ce moment, c'est en train de se faire peut-être une région des Champagnes-Ardennes. Et donc, c'est Olivier Filliol, le président, qui va présider ce culte à Bayeux.
Il faut dire aussi qu'Olivier a été animateur à un moment d'une équipe qui s'intéressait particulièrement à la prière et à la liturgie. Je crois que c'est important aussi de le rappeler pour voir un peu dans quelle tonalité se situe ce pasteur.
C'est un pasteur qui est très attaché à la vie spirituelle. Voilà. C'est un liturgie, spiritualité. Et c'est parce qu'évidemment, il y a plusieurs sensibilités. C'est la sensibilité d'Olivier Filliol.
Et puis alors, il a été prévu... Ensuite, un repas qui aura lieu chez les bénédictines, où il faut s'inscrire naturellement. Et là, c'est l'occasion de dire que depuis de nombreuses années, il y a eu à Bayeux une étude biblique œcuménique qui rassemble catholiques et protestants. Et que depuis notamment Vatican II, les liens se sont établis de façon, je dirais, presque rituelle, en ce sens que la veillée de prière pour l'unité a lieu en alternance au temple de Bayeux ou à la chapelle des bénédictines.
Mais la communauté a des liens très étroits avec la communauté des bénédictines de Bayeux.
Voilà, c'est-à-dire que nous nous connaissons depuis quand même un certain nombre d'années. Et c'est des rencontres, quelquefois d'ailleurs, par exemple au niveau protestant, ont eu lieu dans les salles du monastère des bénédictines. Et puis ensuite, alors l'après-midi, dans une des salles du monastère, parce qu'on n'a pas voulu déplacer les gens et leur laisser un espace de liberté qui soit sans fatigue, nous avons la conférence avec le pasteur François Claveroli, que nous avions évoqué tout à l'heure, et qui a pour thème « Le nouveau visage du protestantisme en France, enjeux et espérances ». Voilà.
Alors François Claveroli, ce n'est pas un inconnu, il connaît Bayeux, et nous, nous le connaissons aussi, puisqu'il a eu des liens avec notre région.
Voilà. Alors le pasteur François Claveroli, on va en dire quelques mots, a pris ses fonctions le 1er octobre 2013, c'est-à-dire ses fonctions de président de la Fédération protestante. Qu'est-ce que c'est que la Fédération ? Il faut peut-être l'expliquer un peu. La Fédération, c'est un organisme qui permet de regrouper les différentes sensibilités du protestantisme. Y appartiennent les églises dites réformées, les églises luthériennes, mais aussi les églises baptistes, pentecôtistes et les églises dites libres.
Et des courants évangéliques, et y compris aussi la mission Zigane,
oui.
Qui organise ces rassemblements qui posent parfois des problèmes à certains. Mais il faut toujours rappeler, je le rappelle toujours, que la mission évangélique Zigane fait partie de la Fédération protestante. Donc c'est un rassemblement très large qui a été créé au début du XXe siècle, 1905, oui. Je crois, au moment de la séparation, et qui fédère vraiment... le président Claveroli doit être un rassembleur, un animateur d'un groupe très... Et puis, il y a également des œuvres qui en font
partie. Il y a aussi les œuvres.
L'Armée du Salut,
la CIMADE, par exemple.
Il y a plusieurs
mouvements
protestants qui en font partie.
Voilà.
Donc, c'est quelque chose... Et c'est... La Fédération protestante est également le porte-parole et l'interlocuteur des pouvoirs publics pour les questions religieuses concernant le protestantisme.
Alors, le pasteur Claveroli est né en 1957. Il est issu d'ailleurs d'une famille protestante. Et il est marié, père de famille. Il a 3 enfants. Il est aussi grand-père, nous dit-on. Il a fait ses études de théologie dans plusieurs endroits, à Genève, à Strasbourg et pour terminer à Paris. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il a séjourné un moment en Afrique, au Gabon, en tant qu'assistant paroissial. Ce qui lui a déjà un petit peu permis de voir d'autres horizons. Et puis, en tant que pasteur, alors, comme le disait tout à l'heure Jean Guérin, nous le connaissons parce qu'il a été pasteur à Rouen, ensuite à Lille, et puis à Paris. Et c'est vrai qu'il a exercé, si vous voulez, son ministère, non seulement de pasteur, mais aussi de président de région, comme nous l'avons dit précédemment. Et puis alors, il a aussi été tourné vers l'aumônerie des prisons, parce qu'à un moment, il s'est particulièrement investi dans ce domaine. Et puis, il a eu d'autres responsabilités en tant que modérateur, par exemple, d'un synode, président aussi de diverses commissions où il a travaillé. Et les commissions, c'est intéressant de savoir, ce sont des commissions quand même qui se sont préoccupées des accords possibles. C'est par exemple l'accord luthéro-réformé et luthéro-catholique. C'est aussi la concorde de Leuenberg qui a travaillé en particulier pour les relations avec l'église anglicane, avec les accords aussi de Reuilly. Donc tous ces mouvements, si vous voulez, divers, qui aboutissent à des traités et à des relations cordiales entre les églises, sont donc très importants. Et il y a beaucoup travaillé.
C'est un homme de dialogue.
Voilà, et de c'est un homme de dialogue.
Et de créer des ponts entre.
De créer des ponts, voilà. Et il a aussi un engagement œcuménique très fort, puisque il fait partie du groupe des Dombes. Le groupe des Dombes, ce sont une quarantaine de théologiens catholiques et protestants qui se retrouvent pour étudier un certain nombre de questions ensemble. Et puis, il a aussi fait à une époque un passage à Casablanca, et il a rencontré là le monde juif et le monde musulman. Et ça a été aussi pour lui l'occasion de voir la richesse dans la diversité des approches. Et donc, il a gardé des contacts en particulier avec le monde juif, puisqu'il est vice-président de l'amitié judéo-chrétienne.
Alors donc, nous vous donnons rendez-vous tous, à toutes et à tous, le 1er décembre à Bayeux. Au revoir.
Au revoir et bonne continuation à nos auditeurs.